Ils viennent de Pézenas, c'est Perrine Alranc, donc, qui vient au nom du Théâtre des Origines, et à son nom propre aussi, puisqu'on a beaucoup échangé toutes les deux. Et bien qu'on ne soit pas, justement, c'est ça qui était intéressant, de la même génération. Et il y aura aussi avec notre modérateur, comme on dit, plutôt notre animateur, je préfère ça, Jacques Jouve, qui est aussi de Pézenas, qui est quelqu'un de. Très proche des questions occitanes, mais aussi occitanistes, mais aussi qui viennent de l'éducation populaire. Donc voilà, on a trouvé que c'était intéressant qu'il nous fasse discuter, qu'il nous pose des questions. Alors moi, je peux vous parler quand même de quelque chose que j'ai eu besoin de mettre à jour par rapport à mon livre. Bon, évidemment. Alors, qui est en vente là-bas, avec le collègue des Martègues, Kesbengut Ameyeu. Et en fait, d'où est sorti ce livre, à mon âge, en fait, c'est. Au départ, en fait, je ne pensais absolument pas éditer ce livre, ni le faire lire à beaucoup de gens, sauf mes enfants, parce que. Il m'est apparu que si j'écrivais, c'était. Eux, ils sont nés après que je sois partie du temps de la carrière, donc les années 90, j'étais partie depuis un certain temps. Et je me suis dit, ben, c'est dommage quand même, je leur en ai parlé un peu comme ça, évidemment, de temps en temps et tout, mais là, maintenant, quand même, je vais écrire un livre, et puis ça me plaisait. Quand j'ai eu du temps à la retraite, ben, voilà, et j'ai fait des ateliers d'écriture. Mais en fait. Quand j'ai été dans ces ateliers, dans l'atelier d'écriture, surtout, il y a eu un premier qui m'a donné envie de. Bon, c'était plus sur, comment dire, sur l'enfance, etc. Et puis, on s'entendait bien. On était notamment cinq femmes. Et on a dit, mais il faudrait qu'on continue. Et on s'est fait un atelier autogéré par mail. Et ça a été précieux parce qu'en fait, du coup, j'ai gardé à la fois ce que j'ai écrit, et je leur ai dit, mais maintenant, moi là, je veux écrire sur les 15 années que j'ai passées au terme de la carrière. Voilà, 1971-1986. Et chaque fois qu'il y avait une proposition de celle qui faisait les propositions d'écriture, eh ben il me venait en fait. Dans cette proposition qui était souvent formelle, une forme littéraire, eh bien, chaque fois, je trouvais quelque chose. Alors évidemment, après, les choses arrivaient en vrac complet d'une chose à l'autre. Et puis, je suis prise au jeu. Et j'avais surtout, ce qui était intéressant, j'avais des retours. C'est-à-dire que les copines, elles, et moi aussi, je faisais ça pour ce qu'elles envoyaient. On faisait un peu un retour en disant, mais là je comprends pas, et là, mais là c'est intéressant ce que tu dis, pourquoi tu développes pas ça, ou bon, voilà, comme ça, des choses comme ça. Et puis quelquefois même, elle faisait des critiques où elle me disait, mais enfin, qu'est-ce que c'est cette histoire de toujours parler de ton théâtre occitan, quand maintenant, regarde, tout le monde est mélangé, les gens viennent de partout, etc. Donc il fallait aussi que j'aille, disons, au-delà d'une autobiographie. Et du coup, ça a beaucoup amené à ce que je contextualise en fait ces années-là. Et puis après, j'ai eu la surprise en allant au Cirdoc qu'il y avait des gens qui, au moment où vraiment le terme de la carrière, en tout cas sur Arles, a été arrêté en 1992 par Marie-Hélène Bonnafé. À ce moment-là, il y a eu quelqu'un qui a pu aller déposer, je ne sais pas qui d'ailleurs, des articles de presse, la revue. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont connue. Ça s'appelait Nouvelles de la carrière, et c'était en fait comme les newsletters d'Internet aujourd'hui. Et ça a été quelque chose dans notre parcours par rapport à notre public, quelque chose d'essentiel. Donc on l'envoyait comme à l'époque avec un bandeau, vous savez, autour de nos quatre feuillets. Et vraiment, ça a été là aussi un déclic très très important. Et donc, pourquoi je disais ça, je ne me souviens plus. Oui, parce que du coup, je l'ai consulté aux archives, et du coup, j'avais peur, en fait, de me dire, bon, tu pars un peu, toi, dans ta mémoire, mais peut-être qu'elle déforme les choses. Et donc, j'ai pu bien retrouver, par exemple, je disais, mais ça, je me souviens de ce village, c'était pour tel spectacle. Alors, vite, vite, je regardais, heureusement, bon, le Cirdoc a été adorable, et c'était pas encore numérisé, et moi, j'ai pu prendre les photos, donc travailler de chez moi en agrandissant les articles sur mon ordi. Et vraiment, ça a été précieux parce que non seulement il y a beaucoup d'autres choses qui me revenaient, mais j'étais sûre que ça s'était bien passé là, de cette façon-là. Il y avait des photos aussi. Voilà, donc là aussi, ça a permis aussi pour moi de continuer à contextualiser, de ne pas rester uniquement sur mon petit nombril pour mes enfants, mais aussi d'en faire plus que ça. Et c'est comme ça qu'a évolué l'idée de peut-être le publier. Mais pour moi, pour les anciens de la carrière, pour des amis proches dont ils ont entendu parler. Et en fait... je me suis aperçue donc de ces premières éditions en auto-édition que d'abord les anciens de la carrière ils s'y retrouvaient, alors que je m'attendais un peu à des critiques en disant oh ouais là tu parles de ça mais enfin c'est bon, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, bon pas du tout, ils m'ont dit ah non mais ça fait du bien de relire tout ce qu'on a réussi à faire et puis aussi bon les amis tout ça, il y avait vraiment des réactions intéressantes. Et donc après, je me suis décidée à pas seulement l'offrir, mais aussi à le présenter. Et puis voilà, maintenant j'en suis là, en me rendant compte d'ailleurs que... merci déjà de m'avoir invitée ici. Et heureusement qu'il y a le mouvement occitan, même si ce n'est peut-être pas des périodes évidentes, et qu'il y a eu le mouvement occitan... Parce que quand j'ai relu, moi, un peu tout ce que j'avais écrit, quand j'ai discuté avec d'autres personnes, j'ai dit, mais en fait, c'était important qu'on ait ce support-là, le mouvement occitaniste. Alors, il n'y avait pas que les occitanistes. Il y avait aussi, c'était, je pense, toute la France qui baignait à ce moment-là, dans les années, donc, je parle des années 70-80, surtout les années 70, qui, vraiment, il y avait une présence des minorités ethniques. Même Barrault avait invité au Théâtre de l'Odéon ces gens des minorités ethniques, même du monde entier. C'est là d'ailleurs où ça nous a beaucoup apporté, parce qu'on a vu d'autres. On ne restait pas, nous, enfermés dans notre théâtre bilingue, tout ça. Est-ce que ça va pas, et les enquêtes et tout. Non, on a vu le théâtre au Campesino, c'était ceux qui, tous les ouvriers agricoles du Mexique, et, enfin la frontière entre les USA et le Mexique, qui ont décidé pour faire partager tous leurs problèmes qu'ils avaient, c'était de l'esclavage, hein, et ça l'est peut-être encore, ils faisaient des interventions qui utilisaient leur culture mexicaine, qui est toujours avec pleine d'humour, et qui présentaient en fait des sketchs, quand ils allaient sur des latifundias et qu'il fallait qu'ils motivent pour des grèves, etc., etc. Et on s'est aperçu qu'effectivement, c'était une charge. Nous, on avait juste Résurrection à présenter. Mais là aussi, qu'il y a eu un succès dingue parce que ça parlait. On a vu aussi la Cuadra de Sevilla qui travaillait sur le flamenco, mais qui le travaillait d'une nouvelle façon pour dire des choses sur ce qui se passait en Andalousie. Enfin, c'était quand même... c'est une histoire qui est, je ne sais pas si aujourd'hui il doit bien se passer d'autres choses différemment, mais là cette époque ça a été quand même très riche, et donc le mouvement occitan sur lequel nous nous appuyons autant que peut-être le mouvement occitan, les cercles occitans pouvaient s'appuyer en nous invitant pour encore mieux diffuser sous forme donc de théâtrale et souvent de comédie. Oui, vraiment, ça a été quelque chose d'important pour nous. Et même y compris quand on a été invité officiellement à Avignon, ce n'était pas encore le in et le off, mais il y avait un début de off avec Benedetto et avec Gélas, mais Paul Puot, qui était le bras droit de Jean Villard et qui, quand il est décédé, a pris la succession au niveau de la direction du Festival d'Avignon. Et il nous a dit, je pense qu'il avait vu Tabot, ça vous parle, Tabot ou la Sainte Barbe de Combat. Et donc, sur les Cévennes, et lui, il était d'origine cévenole avec sa femme, il avait dû voir le spectacle, et il a dit, j'ai vu que vous prépariez quelque chose sur Martigues, avec le soutien de certaines villes, et il faut que vous veniez au Festival d'Avignon, au Cloître des Carmes, tout à fait officiellement, pendant 5 représentations. Et là, on avait un mélange de public, à la fois de festivaliers, mais aussi notre public très populaire qui était venu sur les places du village et qui était tellement fier de pouvoir de voir qu'il y avait la compagnie. Bon, nous, on n'y était pas pour grand-chose. C'était la décision de Paul Puot, mais à la fois, je pense, et d'ailleurs tout à l'heure, quand les copains, mes copines m'auront rejoint, je pense que j'en parlerai un peu, c'est que... Non, c'est pas eux. Non, non. Et donc, c'était... on voyait bien que c'était vraiment quelque chose de fondamental pour de pouvoir... ils venaient au festival, je pense qu'ils n'avaient pas eu d'autres occasions d'aller au festival, quoi. Ça se sentait dans les réactions, dans les applaudissements, dans la façon dont, à un moment donné, pour une autre fois, avec la Liberté ou la mort sur 1789 en Provence, il y avait des moments où on faisait intervenir le public, enfin pas intervenir le public, mais la pause, ben, c'était pas l'entracte, c'était on buvait du vin, on discutait avec les gens et tout. Et donc, ces aspects-là, et Paul Puot, donc je reviens à Paul Puot, en fait, il faut savoir que c'était un résistant, très jeune, et qui, quand il a été le bras droit de Jean Villard et après, il était instite. Et toute sa vie professionnelle, il a dit « je suis détaché de l'éducation nationale, mais je garde mon salaire d'instit », ce qui n'est vraiment plus le cas depuis de nombreuses années à Avignon. Donc, vous voyez la personne que c'était. Et chaque fois qu'il y a eu un peu, ou des journalistes qui n'étaient pas très contents d'un spectacle ou quoi, bon, et qu'on faisait des débats, et chaque fois, il nous disait « laissez parler les critiques ». Vous avez eu le public, c'est eux qu'il faut écouter. Ils nous remontaient, quoi, parce que c'est pas évident d'affronter tout ce qui est institutionnel. Et grâce à Puot, on a pu un petit peu grignoter sur cet aspect-là, ce qui aujourd'hui, je crois, est impossible. Parce que j'aurai peut-être l'occasion d'en parler, mais autant le faire maintenant, en attendant Périne et Jacques. Je suis tombée très très récemment sur un livre qui s'appelle « Quand l'art chasse le populaire ». C'est écrit par Marjorie Glass, c'était son comment on appelle ça là, pas son master encore. Non, sa thèse, voilà. Elle a fait une thèse là-dessus, et puis elle en a édité un livre il y a une petite année, qui ne se trouvait pas, et je crois qu'il a été réédité, parce que je l'ai entendu récemment sur France Culture, où elle défendait le théâtre populaire et tout. Et en fait, elle est sociologue et historienne. Alors, ce que je ne suis pas du tout, parce que quelquefois, on me propose une conférence, je dis, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas historienne. Par contre, rencontrer les gens, oui, je suis pour. Et eh bien, elle a fait, donc, c'est la socio-histoire du théâtre public. Elle ne s'occupe pas du théâtre privé, elle s'occupe de ce qui est soutenu par l'État. Et donc, ça veut dire ça, théâtre public, en France depuis 1945. Et elle dénonce vraiment des choses assez terribles. Je crois que j'en ai mis un petit bout quelque part, où cette question d'institutionnalisation, c'est la dernière feuille, j'avais mise de côté. En fait, ce qu'elle dit, c'est que le théâtre a oublié le public des travailleurs issus des classes populaires. Et donc, elle interroge la place accordée au fil des décennies, puisqu'elle part de 45, de développement des institutions théâtrales aux différents publics et notamment à celui des classes populaires, c'est-à-dire comment l'idéal d'un théâtre public à vocation sociale, ce qui était très important même depuis la Grèce antique, c'est un outil essentiel de la démocratisation culturelle et il s'est heurté à une opposition entre innovation artistique et animation culturelle. C'est-à-dire que il y a eu des évolutions et des dérives, surtout à partir des années, disons, début 90. Et moi, si vous lisez le livre ou si vous l'avez lu, c'est quelque chose qui explique aussi pourquoi, à un moment donné, bon, la fatigue aussi, mais je pars du théâtre parce que je ne m'y retrouve plus au niveau des valeurs. Et donc, des années 90 à aujourd'hui, il y a eu des évolutions et des dérives. D'une part, elle parle, je cite des petits bouts de phrases, il y a eu la prééminence progressive du recentrement du théâtre public sur les questions esthétiques et progressive démonétisation de la fonction civique et sociale du théâtre. Et ça, c'est une chercheuse qui parle, c'est-à-dire que c'est argumenté de façon très solide. C'est pas comme moi des sentiments, des sensations, des remarques comme ça. C'est costaud, hein, son bouquin, là, 320 pages. Je les ai lus avec avidité, mais c'est chaque fois argumenté sur des textes, sur des. À la fois, ils continuent à écrire que c'est ils font du théâtre populaire, mais dans les actions, dans ce qu'ils proposent, dans ce qu'ils font, ils sont dans un entre-soi, en fait, où celui qui va faire le plus d'innovation esthétique, ou celui qui va être, qui va faire créer un peu le buzz dans le milieu des intellectuels. Et donc ça, elle dit, l'accès aux ressources publiques seulement pour les créateurs qui font de l'innovation esthétique et ont aussi un capital relationnel avec l'expertise universitaire et les pouvoirs publics, c'est-à-dire le ministère de la Culture. Cela a affaibli le rôle économique et symbolique du public, c'est-à-dire le public populaire s'est détourné. Donc ça veut dire qu'il n'achetait plus de billets. L'époque de Jean Villard, où tout le monde allait au TNP à Chaillot ou au Festival d'Avignon quand il y avait au tout début, voilà, ça n'existe plus. Et donc ça a affaibli le rôle économique et symbolique du public et la séparation est effective entre art de recherche et théâtre fondé sur le public. Les dominants ont les aides publiques, les exclus du système de subventionnement parce qu'ils sont exclus, parce que trop dans le socio-culturel. Alors du coup, j'ai compris pourquoi nous, on était toujours à affleurer entre quand même des passages au Festival d'Avignon ou des occasions d'être dans des centres dramatiques, mais c'était quand même pas la majorité. C'est-à-dire on a continué, notamment, je pense puisqu'on est à Nîmes, aux Amis du Théâtre Populaire, qui étaient dans toute la France développés, dans les villes, souvent des villes qui n'avaient pas de théâtre ni de programmation théâtrale intéressante, ou pas du tout, enfin c'était Carsanti, et puis éventuellement un classique ou deux pour les lycéens et les collégiens. Et en fait, eux, alors ils s'étaient débrouillés, parce qu'il y avait des systèmes plus associatifs, mais qui étaient aidés par l'État pour développer le public, mais avec des gens très intelligents à la tête. Et donc, c'était que des bénévoles et qui arrivaient à faire venir des compagnies, à avoir le cachet pour les payer, avec entre les entrées payantes et puis les aides publiques qu'ils réussissaient à avoir par cette association qui s'appelait l'ONDA, Office National de Diffusion Artistique, qui, eux, tant que ça existait, wouhou ! Mais ils sont là ! Je vais arrêter le solo. Entrez. Et donc, en fait, qu'est-ce que je disais ? Voilà, ça a été vraiment des périodes qui ont été fabuleuses et l'ONDA n'existe plus. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui, subrepticement, ont disparu. Et c'est ce subreptice que j'ai mis très longtemps à accepter, en gros 2 années, et que j'ai compris quand... on a fait une coproduction avec le Théâtre du Campagnol, qui était un centre dramatique national, et avec notamment Penchena, qui était son directeur, qui a fait des choses fabuleuses, d'ailleurs très, très populaire aussi au niveau du théâtre, mais qui n'était pas très, très reconnu. Au moment, ils ont dit « Oh, arrêtez à vos trucs, faites d'autres choses plus intéressantes, hein, carrément. » Mais bon, et à cette époque, ils nous ont proposé une coproduction. Ça s'est appelé « L'Enclave » des papes, ou la nouvelle villégiature, et c'était écrit par un Italien, Vincenzo Cerami, qui n'a pas mâché ses mots sur la nomenclature qui vient l'été dans un grand mas, invité par un grand critique littéraire, ou un grand éditeur, et puis qui attendent le ministre. On attend le ministre, alors, tout le monde, tout ça, il y a quand même aussi la bourgeoisie locale, la pharmacienne, le maire, etc. Et arrive dans ces entrefaites, la compagnie. Et la compagnie, alors on débat, c'est presque tous ceux de la carrière qui jouent ça, pas tous, hein, mais voilà, et qui déclarent que ils vont faire pour amuser en fait le ministre, mais le ministre ne viendra jamais. Et donc, ils arrivent quand même à imposer la présence du théâtre et du théâtre tout en occitan, comme ils défendaient la chose. Voilà, donc ça a été un grand moment. Beaucoup de très mauvaises critiques, mais peut-être que c'était rassurant, en fait. Mais là, c'est là où j'ai compris que peut-être qu'il y avait une dérive aussi pour moi, mais je n'ai pu la traduire qu'en ressenti et pas aussi bien que ce que fait Marjorie Glass. Je crois que son livre vient d'être réédité aux éditions Agon. Voilà. Donc, faites ouf.
Oui, on va faire ouf, mais on vous racontera plus tard.
Oui.
Excusez-nous donc de ce retard. Perrine Alran, je ne sais pas s'il faut la présenter au public. Moi, je suis Jacques Jouve. Les copines m'ont dit que je serais soi-disant le mieux placé pour les faire parler. Mais comme elles sont bavardes toutes les deux, je pense que...
Il faudra que tu nous fasses taire.
Bon, excusez-nous. Et je ne sais pas où vous en êtes, donc on dispose de combien de temps ?
Prenez le temps que vous avez.
Tout le temps Non, bon, voilà. Donc, je pense qu'on ne présente pas le théâtre de la carrière ici. Tout le monde, plus ou moins, l'a vu, le connaît, connaît son histoire. Et puis, Catherine, je crois qu'elle a bien commencé. En plus, Résurgence, pour ceux qui l'ont lu et ceux qui le liront, vous donnera tout le reste. Bon, je crois qu'elle a des moments forts à raconter dans l'histoire, mais peut-être elle a déjà avancé. Quant à Perrine, si les gens ne la connaissent pas, ils savent quand même qu'il y a une filiation. Hein, d'un côté, le père fondateur de la carrière, d'autre côté, le père géniteur de Perrine. Donc Claude Alran, ce grand passeur, acteur de la culture doc, beaucoup trop modeste, peut-être, sûrement. J'étais chargé donc d'essayer de les faire dialoguer avec deux formes de théâtre peut-être pas si différents, en tout cas deux périodes dans l'histoire de notre pays qui sont très marquées différemment. D'un côté, le théâtre de la carrière qui commence, qui est le théâtre de la rue. De la MJC du 8e arrondissement à Lyon, ça c'est l'histoire, et puis qui descend aux abords de la Méditerranée, ça s'appelle une carrière. Et comme ça, bon voilà. Donc on a fait le chemin en marchant, dit le poète. Et donc je crois que 20 ans, 22 ans exactement de vie au théâtre de la carrière, 15 ans qui sont racontés dans Résurgence. Avec des moments très forts et puis un doute final pour Catherine qu'elle nous expliquera et puis une résurgence, on peut l'appeler comme ça peut-être, 20 ans après, c'est Perrine qui avec les copines, elles vont nous expliquer qui et comment créer le TDO, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup en sigle, en fait, ça veut dire le théâtre des origines, elles vont nous dire pourquoi origine. Et ces théâtres, en même temps qu'ils se ressemblent, ils diffèrent. D'abord, on n'est pas dans la même période. C'est difficile aujourd'hui de parler de la période que nous vivons et que nous risquons de vivre. Ce matin, on ne va pas s'attarder là-dessus. Mais c'est certain que les temps ont changé entre les années 60, 70, 80, période de la carrière et le début des années 2000 avec le TDO. Donc on a choisi un peu de... Bon, la présentation, Catherine, t'as avancé ?
Je crois sur l'origine de la démarche, on va pas y revenir. Voilà, donc on peut aller...
Donc on va demander à Perrine si elle est prête, si ses jambes ne flageolent pas trop... Il faudra être indulgent avec nous. On a vécu un petit moment difficile. Et donc, d'embrayer sur les origines, l'origine 2004. Tu nous racontes ça ?
Bonjour. Oui, je suis désolée, ça va être un peu difficile peut-être pour moi ce matin. Là. Donc, je vais faire au mieux. Peut-être dire... Déjà, l'importance pour moi d'être, de cette rencontre, qui me semble une véritable chance de pouvoir dialoguer avec Catherine. La lecture de Résurgence a été vraiment importante dans mon parcours, parce que je trouve l'ouvrage de Catherine d'une très grande finesse et d'un éclairage sur la question théâtrale et sur la question du théâtre de la carrière qui, pour moi, en tous les cas, dans les interrogations que pose aujourd'hui la question théâtrale, nous ouvre des pistes ou, en tous les cas, nous donne toujours, nous redonne envie de poser la question, mais que peut le théâtre et que peut le théâtre doc ? Et que la question s'est posée à la carrière, qu'on se l'est posée il y a 20 ans quand on a construit le théâtre des origines, et qu'aujourd'hui on continue à se poser, et qu'il est nécessaire de se poser toujours et peut-être encore plus dans la réalité dans laquelle on vit. Donc c'est une vraie chance que Catherine ait pu me convier à cette rencontre. Et voilà, cette rencontre, j'ai accepté de la vivre à travers ces questions-là, vraiment, de nous poser collectivement la question que peut le théâtre doc ? Quelles sont ses spécificités ? Et en quoi ce théâtre-là peut encore être un théâtre d'émancipation sociale ? Puisque c'était bien l'objectif du théâtre de la carrière, comme ça a été l'objectif du théâtre des origines, avec effectivement des filiations, mais aussi des ruptures, des continuités, mais aussi des divergences. Et c'est bien ça qu'on essaye de mettre en dialogue. Pour faire vite, bien sûr, moi j'ai rencontré le théâtre dans le berceau de mon enfance et dans le berceau du lieu de naissance, Pézenas. Je le dis parce que c'est pas anodin quand on fait du théâtre doc. Quand on fait du théâtre doc, on fait du théâtre doc parce que, je vais reprendre cette situation, parce qu'on apprend qu'on n'est pas le produit du sol où on est le produit de l'action que l'on mène. Et ça me semble fondamental quand effectivement on est un artiste du théâtre occitan. Et moi, la transmission du théâtre doc, j'ai pas fait de conservatoire, j'ai pas fait de grandes écoles de théâtre. Moi, le théâtre, je l'ai appris avec Claude, je l'ai appris avec Christian, je l'ai appris avec Annette Clément, je l'ai appris avec Véronique et Valérie, je l'ai appris avec tous ceux qui ont permis de forger ce théâtre occitan. Et ça m'a donné effectivement un corps, une façon de jongler, une façon de penser l'artiste occitan. Et ça a été fondamental dans mon parcours. Je parle aussi que cette rencontre, elle est avec le théâtre, elle est située. Et ça, c'est pas anodin non plus. C'est-à-dire, moi, j'ai appris le théâtre à Pézenas, à côté du grand-père, de la grand-mère, du poulain qui porte les charries, les âmes, à côté des fêtes de carnaval, à côté de tous ces artistes qui étaient dans la rue. Et ça, c'est fondamental dans mon apprentissage de comédienne et dans mon choix de faire du théâtre doc. Ça aura été très important aussi pour le théâtre des origines, puisque le théâtre des origines a pris appui sur la question du patrimoine culturel immatériel, qui effectivement est un domaine culturel qui prend en compte les pratiques spectaculaires, le patrimoine et les pratiques vivantes d'un lieu. Donc tout ça pour dire que le théâtre des origines est donc né en 2004. Il a été créé par un collectif d'artistes qui est sorti de la licence professionnelle Acteurs Sud, qui a été la première licence professionnelle du théâtre doc en France, créée par Claude, et qui nous a permis véritablement de nous donner un cadre intellectuel par le biais de l'ethnocénologie, par le biais de la rencontre avec les cultures occitanes, et puis un cadre pratique, puisque c'était une licence professionnelle qui nous permettait effectivement de mettre nos apprentissages encore dans la cité par le biais de projets divers et variés. Voilà ce que je peux dire un peu sur le théâtre des origines, mais peut-être on y reviendra plus tard.
D'accord, peut-être... Pardon. Catherine, tu veux rajouter quelque chose à ce moment-là ?
Ah non.
D'accord, alors Ben, peut-être on va essayer de le prendre à travers quelques questions qui se posent au théâtre en général, au théâtre d'Oc en particulier, et aux deux théâtres qui sont ici et qui continuent le sillon. Il y a une question qui est première dans ces... Les pièces des unes et des autres, c'est la question sociale, c'est-à-dire qu'on est au cœur même du pays qui se bat. Dans les années 70, 80, 90, on est dans un pays où les mines sont en train de fermer, les usines disparaissent, les jeunes partent cap à nord. Et bien, il y a une question fondamentale là qui se pose, c'est celle de la question sociale. Dans les années 2000, la question se pose encore de manière différente. Donc on va leur demander à toutes les deux de pouvoir, de répondre un peu à cette question. Oui.
Alors, ça semblait, je dirais pas naturel, mais c'était vraiment une époque où il y avait beaucoup ce qu'on appelait l'agit-prop, le théâtre d'agit-prop, c'est-à-dire agitation-propagande. Des choses qu'il fallait dénoncer, mais dans la rue, sur les marchés. Et les Allemands étaient très, très en avance là-dessus. Quand le théâtre de la carrière a commencé, déjà à Lyon, ils faisaient ça. Hein, ils allaient sur les marchés. Bon, c'était post-68, évidemment. Donc, c'était quand même des périodes très, très particulières où, quand on avait quelque chose à dire, on allait dans la rue le dire, hein, en quelque sorte. Mais, très rapidement, c'est Claude qui était quand même ce qu'on appelait à l'époque des années 36-45 le chef de troupe, dans le bon sens du chef et donc et du leader. Il avait un peu des méthodes d'enquête socio-économique. Ben, on va rencontrer les gens, on a tel sujet qu'on aimerait traiter, comment on fait ? Ben, on va rencontrer les gens, on prend des notes, on réagit, etc. Donc c'était effectivement des enquêtes assez socio-économiques sur le vin avec Mort et Résurrection et puis la guerre du vin et ensuite Tabot ou la Sainte-Barbe de combat en Cévennes autour des mineurs et de ces pays qui étaient aussi ces gens qui étaient aussi mineurs mais paysans encore. Bon. Et puis ben, alors, et la pastorale, là c'est carrément des élus et un office de la culture à Martigues qui nous disent ce que vous avez fait là déjà, les trois spectacles, venez le faire ici avec l'ouverture de Foss et de la zone industrielle. C'est énorme, 800 hectares et tout, mais c'est de la folie. Ils nous ont foutu en l'air tout un coin qui était la suite de la Camargue, hein, et de la Croix. Et donc, venez en parler avec toute l'arrivée de ces gens qui viennent du nord ou qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée. Venez en parler. Ça donnait donc la pastorale de Foss. Et donc, là, rien qu'avec ce titre, ça montre aussi le différentiel avec ce théâtre engagé. Cette filière du théâtre engagé, c'est que on était certes sociaux, des choses très rigoureuses à ce niveau-là, au niveau social, au niveau économique, mais il y avait aussi cette culture qu'on voulait défendre parce qu'il y avait tout le mouvement occitan qui le défendait, et tous les minorités ethniques en France aussi, ça débordait de partout. Et d'ailleurs, la guerre du vin a été inspirée par la guerre du lait que menaient les Bretons qui nous avaient invités pour qu'on montre Mort et Résurrection de Monsieur Occitania. Donc, c'était costaud. Mais c'est vrai que on avait, en même temps, on avait besoin pour faire la création de recueillir plus largement les paroles des habitants, que ce soit des chansons, que ce soit des expressions propres au village, que ce soit par exemple le surnom des habitants. Je me souviens pour Tabot, il y a la scène finale qui est magnifique, que tout le monde pleurait à la fin dans le public, je vous assure. Et même moi, ça me donne la chair de poule. C'est quand Claude revenait dans le rôle de Roubaillou et qu'il... Il appelait dans cette désertification totale et cet abandon des Cévennes. Il n'y avait que le parc national des Cévennes, hein, le tourisme qui était proposé, hein, pas grand-chose d'autre. Et il appelait tous les villages par leur surnom qu'on donne dans les villages. Et puis, il faisait ça, mais c'était extraordinaire. Et je vous assure que quand il y avait les applaudissements, mais... C'était chaud, quoi. Les gens, ils avaient réagi à ça parce que ça, il y avait cette complicité qu'on arrivait à établir à travers ce qu'on voulait aussi dire et ce qu'on avait recueilli en enquête sur la culture, qu'elle soit bilingue ou qu'elle soit entièrement occitane. Et c'est vrai que ça donnait évidemment, y compris... Alors, et la période qu'on a eue, que je pourrais peut-être à un moment donné expliquer, je ne sais pas quand, sur la période des femmes, quand Claude Alleran part, parce qu'il, pour lui, il y a trop de compromissions qui sont impossibles à vivre pour lui. Et on se retrouve quand même avec un outil qui fonctionne, une coopérative, un lieu, une maison, comme dit Mnouchkine. On a besoin d'une maison, les gens qui font du théâtre. Ben on l'avait, ça à Arles et tout, et une certaine reconnaissance aussi. Mais c'est vrai que donc c'est là où les femmes, la place étant vacante en quelque sorte, on n'aurait jamais osé faire ça, mais on l'a fait. Et il y a cette période d'écriture des femmes qui, en fait, devient très rapidement quelque chose qui est repéré comme féministe.
Alors, on le garde ça pour tout à l'heure. Et on va peut-être que, avant de passer là, on va passer la parole à Perrine pour nous dire qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans les luttes. Elle a expliqué son entrée par le patrimoine immatériel, mais qu'est-ce qui aujourd'hui raccroche, quel type de lutte se raccroche aujourd'hui à ce que vous faites? Et puis peut-être que tout à l'heure, dans la discussion, dans le dialogue, certains se souviendront de lutte et de ce que ça a pu être aussi et en quoi le théâtre a pu nous faire avancer ou prendre conscience.
Oui, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que le choix qui a été fait par le Théâtre des Origines sur la question de la communauté et la question sociale, le Théâtre des Origines s'est posé vraiment la question de se dire à quelle communauté on s'adresse, à qui on s'adresse. Peut-être que cette question-là est effectivement une différence avec le Théâtre de la Carrière, qui a effectivement décidé de porter la parole culturelle des habitants d'un lieu dans une visée politique. Nous, dans les années 2000, porter la parole de qui? il faut avouer qu'on n'était pas... se poser déjà la question, ce théâtre doc, à qui il s'adresse? Le Théâtre des Origines, à qui il s'adresse? Donc nous, on a choisi de travailler dans la rue. En choisissant de travailler dans la rue, on s'adressait à tout le peuple de la rue. Et donc, on s'est posé la question d'un théâtre occitan qui pouvait créer une communauté, se créer une communauté du théâtre. Donc, non pas uniquement en s'adressant à la question des occitanismes ou des occitanistes, mais en s'adressant à la question de la communauté dans sa globalité et d'injecter la question culturelle occitane en se disant, non, ce qu'on va... tenter dans ce théâtre-là, c'est justement de créer ce qu'on a appelé du spectacle rituel qui permettra à tous d'agir collectivement. Donc la particularité du Théâtre des Origines, même si effectivement il y a aussi un travail en amont avec la population locale, principalement sur la question des mythes, sur la question de l'esprit des lieux, sur la question des divinités, comment cette culture occitane, on peut la réintégrer dans un spectacle rituel dans lequel la communauté va être actrice de sa propre exigence et mission culturelle. C'est-à-dire, là où on est très proche avec le Théâtre des Origines, c'est aussi la question avec le Théâtre de la Carrière, c'est la question de l'éducation populaire. C'est-à-dire, on n'est pas là pour promouvoir un génie de l'artiste, on est là pour promouvoir le génie d'une culture. Mais nous, le Théâtre des Origines, on a donc recréé effectivement des traditions, des rituels qui sont aussi des fakes. Martrou est un fake. On est bien d'accord et je l'assume entièrement. C'est une tradition qu'on appelle inventée. Mais là où justement l'intérêt pour nous était qu'il y ait une réappropriation culturelle par l'acte théâtral. Voilà. Donc il y avait aussi un travail avec la communauté, mais dans la volonté que la communauté soit actrice de l'action culturelle et que le théâtre retrouve une place qui a été fondamentale des années 70, qui est un théâtre d'émancipation sociale.
Merci. Je crois qu'en effet, ce qui est notoire dans les démarches, c'est... cet aller-retour dont parlait Catherine sous la forme de on fait des enquêtes et ensuite dans les discussions qu'on a avec les gens du cru après les spectateurs après le spectacle peut être transformé. Et un certain nombre de didascalies dans les textes de Claude Alleran notent bien qu'en effet il y a une nécessaire adaptation du texte, enfin du spectacle à la réalité locale. En allant peut-être un pas de plus vers dans cette dimension d'éducation populaire, du peuple par le peuple, pour le peuple, on a bien cette démarche des origines qui enthousiasme à travers ce moment festif des gens qui n'auraient jamais fait le pas de se masquer, de se grimer, de se déguiser, de sauter dans la rue, etc. Et qu'on y est en plein. Et c'est vrai que moi, Martreau, ça me donne toujours des frissons. Bon, voilà. Alors, peut-être qu'il faut... Et je suis le pédénas. Et... Pardon. Ou peut-être aborder la question du pays. C'est-à-dire qu'on vient là de le parler sous la forme un peu de la réalité sociale, comment on est un des facteurs, un des ferments de la modification de cette réalité sociale vers un peu plus d'émancipation. La question alors du pays, évidemment, ici, en plus, ça s'accroche davantage, ou peut-être plus la préoccupation est importante de pourquoi dans ce... Enfin, qu'est-ce qu'on fait dans ce pays? Qu'est-ce qui s'apparente? Qu'est-ce qui apparente votre théâtre à ce pays? Je vais peut-être dire... Non, simplement, je pense que dans les années, pour peut-être mieux préciser, dans les années 60, 70, 80, quand on parlait de lutte identitaire, de l'identité, c'était un combat émancipateur. On était sur les questions régionalistes, etc. Il était très fortement marqué par une volonté d'émancipation, parce qu'il y avait une volonté d'inscrire justement ces luttes sociales, etc., dans le pays, au pays, vivre au pays, vivre au pays, bon, etc. Dans les années 2000 et au-delà, aujourd'hui, le discours identitaire, il n'est pas du tout porté, il est porté par les fachos. Et on en sait malheureusement quelque chose. Donc il faut évidemment transformer notre pratique égard à ces modifications de conception idéologique. Voilà. À toi.
Oui, je dirais que c'était facile pour le théâtre de la carrière parce que on était porté aussi par cette vision qui est effectivement Boulogne Bureau le pays, on veut travailler et décider aussi au pays, mais on n'avait aucune vision conflictuelle de culture irréconciliable. La pastorale de Fosse, par exemple, on l'a fait sans trop de problèmes, où à la fin, c'est Mireille, la fille du pays de Pamparigouste, qui attend un enfant avec le Boumian, qui arrive de l'autre côté de la Méditerranée, et c'est sous la bénédiction du patriarche du spectacle que, ils disent... On va porter la bûche au feu ensemble, etc. Et même, nous avons eu, pour donner un peu une idée, le curé de Raphaël Les Arles était un curé qui était très, très provençaliste, qui avait une bibliothèque qui paraît fantastique. Et il a dû venir voir, mais sans nous le dire, le spectacle de la pastorale de Fosse. Quand même, de cette façon, en plus, il savait que c'était complètement iconoclaste et tout, quoi. Il est venu et après... Alors, je n'ai jamais pu retrouver ça dans les archives, mais dans ma tête, c'est toujours resté. Il a fait un petit article en disant que quand même, c'était intéressant dans sa feuille de chou catholique, enfin de sa paroisse. Et il a dit, à la fin, c'était « même le diable porte pierre ». Ça, ça m'avait étonnée parce que c'était une expression de ma mère, c'est-à-dire « porte pierre à l'édifice ». Ça voulait dire non pas porte-pierre pour nous l'envoyer dans la figure, mais porte-pierre. Même le diable porte-pierre. C'était, moi, j'ai trouvé ça, ça m'a vraiment marqué définitivement. Donc, c'était, je dirais que c'était moins compliqué. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose à retrouver. Et heureusement, je dirais que le théâtre des origines, en tout cas, au moins, si ce n'est peut-être d'autres compagnies de théâtre dans d'autres styles, doivent porter cette résistance vis-à-vis de cette montée, cette vision complètement atterrante de ne pas accepter le métissage, parce que c'est ça nos cultures, c'est que du métissage, que ce soit d'ailleurs l'occitan ou quelle que soit la langue qu'on parle. Donc là, peut-être qu'il y a quelque chose à travailler. Ce qu'on savait mieux faire dans la coopération avec d'autres compagnies qui n'étaient même pas du tout occitanes dans les années 70-80, mais qui coopéraient entre elles et qui faisaient des choses parce qu'on se voyait mutuellement et ça enrichissait, peut-être qu'il y a de la résistance aujourd'hui à penser.
Je pense que effectivement, on n'est pas tout à fait. J'ai du mal à dire. Est-ce que le théâtre, j'ai pas de réponse à cette question. Est-ce que le théâtre des origines est un théâtre militant? Est-ce que c'est un théâtre de pays? Est-ce que c'est un théâtre politique? Je dirais que oui, sans doute sous d'autres formes et sans doute. Il y a eu une volonté aussi de s'affranchir de certaines luttes, d'une question générationnelle. Voilà. Donc on a essayé aussi de trouver nos propres luttes, de trouver nos propres façons de lutter, et de trouver un espace où ce théâtre militant pouvait encore exister. On ne va pas se leurrer. Ce qui pouvait être fait dans les années 70, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Soyons honnêtes, le théâtre des origines a été viré de la ville de Pézenas par les politiques. On nous a dit, on ne mord pas la main qui te nourrit. Hein, ça, c'était dans les années 2010. Et je veux dire, on faisait bien moins, sans doute, que ce que Claude a fait quand il a cassé la gueule à Fraîche. D'accord ? Donc, on est dans des réalités, on est dans des réalités politiques qui sont différentes. Donc, nous, on a dû effectivement trouver un terrain dans lequel on pouvait exprimer du politique, et je pense que le théâtre des origines est profondément un théâtre politique, parce que justement, il crée des espaces de vie sociale, de vie communautaire, où on peut densifier notre rapport à la culture. On peut et ça me fait beaucoup penser au réveil des peuples autochtones qu'on a aujourd'hui, par exemple, au Canada, ou ailleurs dans le monde, où on se dit réveiller nos ancêtres. Réveiller nos masques, réveiller nos cultes, réveiller nos chants, réveiller nos danses, réveiller nos sorcières. C'est ça que fait le théâtre des origines. Alors, pas dans un peut-être débat politique tel que le ferait aussi une pensée peut-être masculine du politique, puisque il est évident que le théâtre des origines est un théâtre de femmes, mais nous y reviendrons. Et je pense que ça modifie aussi la perception de la lutte et la façon dont on fait du théâtre politique. Donc, le théâtre des origines a, en tous les cas, la dimension politique, elle est perpétuelle. En tous les cas, pour moi, elle est essentielle. Mais dans une réalité, effectivement, où aujourd'hui, on est confronté à de la censure, des endroits où on nous demande de voir les textes avant de pouvoir les jouer, où on nous enlève la possibilité de chanter certaines chansons, où on est considéré effectivement par les théâtres officiels comme du théâtre grotesque, dans lequel on ne peut pas jouer. Donc, au-delà même du discours politique qu'on a, le fait même de faire du théâtre occitan et de le faire tel qu'on le fait, c'est politique.
Merci. Juste une petite correction, Périne. Ce n'était qu'un soufflet pour corriger un enfant capricieux. C'était comme ça que ça avait été dit. Un soufflet pour corriger un enfant capricieux. Comment on corrige un enfant capricieux ? Donc oui, ben, on y est quand même là sur le patrimoine, tu l'as déjà beaucoup évoqué. À l'époque, peut-être à la carrière, on ne le posait pas comme ça. On y était en plein dedans, mais on ne le posait pas comme une question première, puisque je crois que j'ai l'impression que c'est la question première, c'était bien la question sociale, la question de réveiller les consciences, plus que celle de s'accrocher au patrimoine. Et pourtant, vous y étiez en plein dedans, ce que tu as décrit, tabou. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus sur le patrimoine ? Toi, surtout. Ah, Catherine.
On a vu
Oui, il me semble. Hein, mais, ouais. Mais même la Sainte-Barbe, hein, enfin, la Sainte-Barbe, le carnaval. On
est dans la période des carnavals.
Voilà, peut-être parle-nous de la période du carnaval, parce que ça a été un moment fort.
Ah oui, ça a été un tournant très, très important quand Claude dit, mais on a sous nos yeux du théâtre occitan. Et il faut travailler ce côté carnavalesque qui rentrait complètement effectivement dans notre vision, qui n'était pas celle effectivement de l'institut, des institutions théâtrales, parce que la Commedia dell'arte était toujours très raffinée, hein, quand on voyait des spectacles, oh là là, qu'ils invitaient des Italiens. Ah non, mais dans la bonbonnière qu'était le théâtre à l'ancienne d'Aix-en-Provence, on les a vus et les gens applaudissaient à tout rompre. Mais par contre, on savait très bien qu'ils ne viendraient jamais voir sur une place de bougre des carnavals, ça on le savait. Donc, ok, mais par contre, ça a été un moment très créatif, très musical. Où il est ? Ah, ben voilà, je ne te voyais plus, Christian. Non, mais c'est vrai qu'au niveau musical, vous avez été à la fois, vous êtes nourri de ces chansons, de ces musiques, mais aussi, quel que soit Tarabastal ou plus tard Savoy, mais c'est vrai que vous avez aussi inventé. Vous avez, c'est ça aussi qui est fondamental dans le théâtre, c'est que à partir de toute une matière, on peut aussi inventer et s'amuser aussi entre des choses de la réalité et les choses. Et bon, c'est ça, après, en trouvant les bonnes formes. Mais vraiment, c'était intéressant de voyager comme ça, hein, jusqu'au jour où, pour Bougre des Carnavals, à Pézenas, c'était veille de carnaval quand même, quand on l'avait présenté, et où tout d'un coup, 78, et où déboule sur la scène une vingtaine de Pissénois en panel. Donc déjà habillés comme il fallait et qui se sont mis à entamer l'air du poulain, l'air du soufflé au milieu de d'Annette qui était sur un cube qui jouait le mari qui était un peu affolé de ce mariage avec sa femme qui était évidemment jouée par Maurice bien costaud et tout et ça a été un moment parce que je me souviens de Jean-Louis qui nous disait mais et vous ne nous avez pas foutu dehors. On était sur scène, mais on a pu continuer. Bon, après, ils sont redescendus et ils n'ont pas occupé jusqu'à la fin. Mais c'est vrai qu'il y a eu ce moment-là qui a été fabuleux et dans plein d'autres. Et notamment, on avait inventé des espèces de colloques, je ne sais plus comment ça s'appelait, des rencontres. Et là, on s'est aperçu que plein de gens se côtoyaient. Il y avait des chercheurs. De la fac, des universitaires, mais il y avait en même temps des responsables de foyers ruraux, de Bédarieux, de tout petits villages qui venaient là parce qu'ils se rendaient compte qu'il fallait un peu inventer et relancer des fêtes et relancer la vie sociale dans leur village. Et ils étaient étonnés même de rencontrer tout ça et tout le monde était heureux même de partager tout ce qu'on a pu partager. Et là, c'était vraiment, on l'a fait sur Arles, on l'a fait sur Villeneuve-les-Avignon dans la Chartreuse et on l'a fait, je ne sais plus, un autre endroit. C'était d'une richesse. Oui, il y avait la Niçoise aussi qui avait travaillé sur les carnavals de Nice mais qui avait trouvé sa place aussi. Puisqu'elle défendait le corso, etc. Mais de façon aussi, parce que c'est une niçoise, quoi. On ne pouvait pas dire n'importe quoi en disant que c'était pas bien, c'était que pour les touristes et tout. Non, non, elle nous a replacé vraiment toutes les choses. Donc ça a été vraiment très, très porteur, quoi.
Anne Isidro,
oui. Oui, il y a eu des rencontres, oui, même inattendues, de gens quand même qui n'étaient pas forcément très proches. Oui.
Il est certain que cette forme de carnavalesque a vraiment marqué d'une empreinte très forte le jeu Moi, il me semble ensuite, peut-être plus fort après cet épisode de Bougre de Carnaval, et qu'on retrouve quand même dans votre travail, dans votre jeu, dans la forme, votre expression.
Oui, effectivement, le carnaval a été aussi, hein, pour le théâtre des origines, un creuset, hein, de culturel, mais aussi qui nourrit, hein, le corps de l'artiste, la voix de l'artiste, et qui est aussi une des spécificités de l'actaire, quoi, hein, de celui qui va effectivement jouer, mimer, danser, chanter. Et c'est vrai que ça a été c'est pour nous une source, comme pour le théâtre de la carrière, une source très importante dans la réflexion de ce théâtre-là. On a eu la chance aussi, effectivement, d'être formés par les anciens de la carrière sur ces questions-là, par Christian, par Saboy, avec qui on a beaucoup, beaucoup travaillé, par Annette Clément, par Claude. Et donc, ça nous a beaucoup porté. Dans cette question de lien au patrimoine, c'est vrai que le théâtre, c'est aussi très politique. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment c'était à l'époque, mais aujourd'hui, la question du patrimoine, elle est aussi une question de domination. Elle peut être aussi une question de façon dont les pouvoirs vont pouvoir étouffer et rendre non dangereux tout ce qui va, et non subversif, tout ce qui va se passer dans le cadre de ces manifestations. Donc nous, le patrimoine est stratégie. C'est un outil. C'est un outil parce que si on ne disait pas théâtre patrimoine, bon, déjà on n'aurait aucune subvention. On en a uniquement parce qu'effectivement on n'est pas subventionné par art de la scène, on est subventionné par langue et culture régionale et patrimoine. Jamais de la vie on sera considéré dans les filières du spectacle vivant. Donc le patrimoine est une stratégie. Une stratégie bien sûr à double tranchant. Parce que le danger de cette stratégie, c'est d'être bouffé par elle. Et d'être considéré tout le temps comme quelque chose qui ne peut pas bouger. Puisque c'est du patrimoine, ça n'a pas vocation à la créativité. Ça n'a pas vocation à la subversion. C'est tranquille, le patrimoine. C'est tranquille. Pour les pouvoirs publics, c'est tranquille. Donc nous, on s'est servi. Le théâtre des origines a été créé en 2004. En 2005, 2003, il y a eu la Convention sur le patrimoine culturel et matériel de l'UNESCO. C'était une aubaine. C'était une aubaine politique de dire tout à coup, ah oui, donc ils vont reconnaître et mettre sur des tablettes, sur des listes, toutes les pratiques spectaculaires qui se trouvent dans la rue. Servons-nous de ces pratiques spectaculaires pour les faire bouger, les faire avancer, les faire grandir sous couvert de patrimoine. Mais on se retrouve de plus, et ça Christian en parle beaucoup, je pense que je me souviendrai toujours de ce qu'il dit, on est de plus en plus confrontés à Carnaval est une fête pour les enfants, Martrou est une fête pour les enfants, intervenons dans les cadres d'école. Bien sûr qu'il faut de l'éducation artistique, c'est évident. Par contre, si vous enlevez de Carnaval tout son lien à la sexualité, tout son lien à la subversion politique, si vous le videz de sa substance, ça devient un objet consensuel. Donc tout le danger de ce théâtre patrimoine est effectivement de jouer avec son patrimoine, de jouer de son patrimoine et de transformer le patrimoine, de le faire grandir, il me semble.
Merci. Peut-être que Christian aura beaucoup de choses à dire tout à l'heure, puisque pour moi c'est aussi le moment des Bombadis qui fait que la carrière est dans la rue vraiment, n'est plus sur les planches et ouvre cette voie qui plus tard sera empruntée par les origines. Mais peut-être que tu as d'autres choses à dire et peut-être un peu mieux que moi.
Après.
Oui, d'accord.
Juste, je ne sais pas si on peut rebondir par rapport aux femmes. au féminisme. C'était justement, parce que... le lien que je fais, c'est qu'on s'est posé beaucoup de questions en disant, mais ce carnaval qui, en général, fait beaucoup rire et transporte les gens quand c'est un homme qui se déguise en femme, mais quand une femme se déguise en homme, ça n'a pas de résultat. Et c'est vrai qu'on avait fait, on avait cherché, enfin, en tout cas, ceux qui étaient sur scène avec Bougre et Carnaval, parce que moi, j'étais sur d'autres actions culturelles, à la carrière, se sont vraiment posés comme questions d'un point de vue théâtral, mais aussi pas que. Et c'est vrai qu'il fallait conquérir aussi cette place et que les spectateurs ou les gens qui étaient autour acceptent et que nous aussi, on soit suffisamment forts pour... forte, puisque c'était une question des femmes, de s'approprier ce carnaval, de s'approprier ce vocabulaire, mais sans qu'il soit dénigrant vis-à-vis de... Bon, par rapport, attention, à la culture occitane, il y avait d'ailleurs, dans notre période féministe, on a réalisé, on a pris conscience que cette culture occitane, comme la culture française aussi, mais elle avait arrêté d'évoluer quand même, au niveau de la vie... la vie vivante et donc on s'est dit mais elle est complètement patriarcale quoi. Quand on a fait un peu notre tournant là, que les filles on s'est mises à écrire et à faire des mises en scène, on se disait mais en fait ce que je me suis aperçue mais après avec le recul hein, maintenant, c'est qu'on utilisait cette contradiction à la fois de porter et défendre une culture occitane patriarcale dans l'écriture et la dramaturgie en fait, des spectacles ou dans le choix des textes théâtraux. On faisait, ça fonctionnait chaque fois. Et c'est bien ça qui permettait d'avoir des personnages de femmes qui n'étaient pas un peu éthérés comme l'a été la fille d'Occitania dans le spectacle où on avait cherché à ce que ce soit une héroïne. C'était le spectacle écrit par Claude Alranc avant qu'il s'en aille. Mais c'est vrai qu'on se disait, mais cette fille, elle est complètement éthérée. Elle arrive, elle va sauver toute l'Occitanie. Mais c'est pas nous, ça. C'est pas nous. Nous, on a des contradictions. Nous, on est de chair et d'os. Nous, on aime, on n'aime pas. Et alors que, justement, les héros étaient souvent pétris de toute cette humanité, en fait, ce qui est humain. Et on a travaillé là-dessus, et du coup, ça a donné des spectacles qui, d'une certaine façon, étaient beaucoup plus costauds, parce que, même sans le dire, on voyait bien qu'il y avait des femmes sur scène, il y avait un propos féministe, mais à la fois, il y avait, en triturant cette façon de faire, on y est arrivé, quoi, à s'approprier ça aussi.
Oui, peut-être... en rajouter un petit peu sur les différentes expériences qu'il y a eu, y compris celle où tu étais déjà partie, mais qui reste finalement peut-être la dernière période, la dernière étape de la carrière, c'est un théâtre de femmes.
Tu parles avec Marie-Hélène ?
Marie-Hélène, oui, essentiellement.
Oui, pas que.
Pas que.
Non, pas que. Mais par contre, oui, c'est les femmes qui... C'est net que c'est les femmes qui ont pris le relais, même si l'équipe était mixte. Voilà, on est bien d'accord.
Dans les présentations, les pièces, toutes les pièces...
Après, dans les choix des pièces, oui.
Oui.
Mais c'est, oui, effectivement, c'était...
Saison de femmes, Miracle, oui, le miroir des jours, la Galine...
On en a fait 8. En 5 ans, on a fait... Moi, j'ai appelé ça ces 5 années brûlantes, parce que c'était vraiment ça. Ça n'arrêtait pas, c'était des plus petites formes, mais elles ont eu chacune des longues vies, des longues reprises. Donc, c'était ça pour nous l'essentiel.
Presque plus, enfin, j'ai le souvenir du planning familial qui invitait... Marie-Hélène, je suis en train de chercher le titre dans
Porte à porte,
qui était un peu le manifeste féministe de la carrière pour moi. Bon, voilà.
En appartement, ça se jouait en appartement. Voilà. On a même fait ça.
Et alors, par contre, les origines, à l'origine des origines, c'est 3 femmes, c'est ça, qui faut le faire en théâtre féministe.
Oui, c'est des femmes qui sont à l'origine du théâtre des origines, même si il y a eu bien sûr Dom Pierre qui est là, qui a beaucoup œuvré, qui a été là d'emblée, Pierre Peralta, qui a été le crieur public, hein, la voix du théâtre des origines dans la rue. Donc c'est important, c'est un théâtre de femmes, mais pas que, c'est-à-dire un théâtre pensé avec une vision du féminin, mais je pense aussi qu'il y a plein d'hommes qui peuvent avoir cette pensée du théâtre. Je retrouve beaucoup de choses. Alors c'est vrai que nous, on a été peut-être sans doute un peu naïves, c'est-à-dire que quand on est arrivé, qu'on s'est dit effectivement on va faire du théâtre, on n'était pas, on s'attendait pas, je crois, à devoir être féministe. C'est-à-dire qu'on était persuadé qu'on pouvait faire du théâtre. Voilà, pourquoi pas, quoi. Donc on n'était pas dans la conscience que les femmes du théâtre de la carrière ont eu à se forger, parce que de fait, effectivement, elles se sont retrouvées dans une situation où tout à coup, il y avait une parole de femme qui s'est dégagée. Nous, on était femmes et on se disait on veut juste faire du théâtre, et pas forcément porter une parole féministe. La parole féministe, elle est venue parce qu'on a été confrontés à un milieu principalement masculin et domination et de forte domination masculine. Que ça soit, effectivement, comme le dit très bien Catherine, au sein du carnaval ou au sein des manifestations traditionnelles, où là, ça a été extrêmement violent, et il faut le dire vraiment, les filles du théâtre des origines se sont retrouvées dans des situations où il a fallu vraiment lutter, même physiquement, quitte à en arriver à des choses physiques, pour se faire entendre. Et quand on sortait dans la rue, le premier truc qu'on nous disait, Pierre Pointe-Mernier, c'est « à poil ». Voilà. Au moins, c'était clair. Et donc, c'est petit à petit qu'on s'est rendu compte que ce que dit Catherine, que, ah ben oui, effectivement, quand nous, on s'amusait à se mettre des moustaches à carnaval, et ben tout à coup, on sentait bien qu'il y avait un espèce de mur. Enfin, voilà. Que petit à petit, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était très compliqué. Alors, c'est compliqué, ça a été compliqué énormément dans le milieu traditionnel. Ça a été aussi très compliqué dans le milieu du théâtre occitan, aussi, de se trouver une place en tant que femme qui décide de faire du théâtre doc. Aussi. Et n'en parlons pas dans un milieu culturel, effectivement, où il y a une forte domination masculine. Donc, on s'est forgé une identité parce qu'on n'avait pas le choix. Et non pas parce qu'on a eu une réflexion forcément sur le féminisme. Donc, en fait, on a petit à petit réintégré. Par exemple, les sauvages, le personnage des sauvages en carnaval, on s'est dit « Ah ouais, mais non, mais on n'est que des nanas. Bon, ben merde, on va faire des femmes sauvages. C'est quoi le rituel de la femme sauvage ? Pourquoi est-ce que... » Et donc, on a été sur des terrains où on a recréé des personnages, où on a créé des personnages qui nous donnaient une place qu'on n'avait pas.
Bon, peut-être avant de passer la parole à un échange, j'aurais voulu... je crois que Catherine... où est-ce que j'ai relevé là de Claire Toreille ? Claire Toreille est là ? Non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Alors elle le dit, oui, je vais vous le dire. Le départ de Catherine en 86 procède d'un épuisement physique et moral, assumé après des années de fidélité volontariste au projet utopique de la Fondation, projet mûri, brillamment réalisé, dans le mouvement des idées et de la société, jusqu'au point inéluctable de décrochage entre désir et réalité. Donc cette réalité qui écrase un espoir, Catherine... celui de voir arriver enfin la gauche au pouvoir, mais la conversion de ses dirigeants aux lois des reines du marché a accru la désillusion. Tu peux nous en parler ?
Alors, j'en ai un petit peu parlé juste avant que vous arriviez, puisque j'ai parlé du livre de Marjorie Glass, en vous citant quelques passages, puisque elle a vraiment argumenté en tant que chercheuse, sociologue et historienne, sur l'évolution et les dérives du théâtre public, qui, je pense qu'il y avait tout le monde qui était présent quand j'en ai parlé. J'ai lu les petits passages que j'avais, les quelques lignes, une quinzaine de lignes, là, que j'avais relevées, où elle sans vous relever toute, évidemment, la démonstration qu'elle fait, l'analyse de tous les textes écrits qui continuent à dire qu'ils font du théâtre populaire, mais en fait, après, qui sont dans l'entre-soi, qui se demandent pourquoi il n'y a plus de public et qui après, envoient des petits jeunes en leur disant, récemment encore, là, on m'a dit... Il dit, ah ben oui, moi j'ai abandonné là, tout ce théâtre. Il était au théâtre de Strasbourg, il avait fait Sciences Po et tout. Et on lui disait, ah ben là, on n'a plus trop d'idées, vous ne pourriez pas nous en donner, le directeur du théâtre, qui était aussi un créateur. Ah là, il faut qu'on gagne en public, allez-y les petits jeunes. Non mais c'était ça quoi. Et ça l'a écœuré. En plus, il allait sur Paris pour voir des spectacles, des plus petites formes, mais qu'il trouvait vraiment très, très intéressants. Et il les proposait en disant, ben voilà ce que j'ai vu à Paris, est-ce que dans la programmation et tout. Et chaque fois, c'était à la fin, il disait, ah ben ils n'ont rien retenu de ce que... Alors pourquoi ? Mais à quoi je sers, moi ? Et il est parti. Il est parti. Il a dit, ça n'a plus aucun sens, mon travail. C'est un jeune qui a 34 ans, là. Un des fils de Michel Rochin. Voilà.
Bon, voilà. Donc, le vent s'est levé. Il faut tenter de vivre. La vague en poudre ose jaillir du roc. Et la résurgence, elle est là, avec le théâtre des origines. Et puis, voilà, qui se bat dans le quotidien.
Je veux dire, la résurgence, elle est dans plein de gens qui, quelles que soient les formes, il y a encore des gens qui font du théâtre doc. Et c'est sûr que c'est un combat et c'est pas forcément on est forcément proche de l'épuisement et je trouve ça m'a beaucoup touchée dans le livre de Catherine effectivement et son choix de à un moment donné de départ quoi hein, de c'est vrai que c'est une réalité c'est pas parce qu'on a 45 balais que voilà, qu'à un moment donné, on peut se dire, oui, mais en fait, est-ce que c'est encore possible ? Est-ce que je dois encore le faire ? Alors, pour l'instant, on fait le pari de la joie, de dire qu'on a encore des histoires, nos histoires à tous à raconter, et qu'il faut le poursuivre. Mais c'est évident que, il me semble que ce théâtre doc ne pourra le poursuivre que s'il arrive à s'unir. S'unir avec tous les praticiens qui font du théâtre doc, mais aussi d'autres disciplines, des gens qui sont engagés dans d'autres combats, de le penser ensemble pour pouvoir effectivement se donner encore une petite voix au chapitre.
Merci toutes les deux, mais il y en a quand même un témoin, acteur, qui a peut-être aussi des choses à rajouter là-dessus. Parce que sinon, vous allez choquer à torticolis. Oui. Alors, je sais que tu n'aimes pas parler avec les micros, ouais. Donc tu peux casser de gueule pour être entendu.
Vous m'entendez quand même, sans micro ?
Ça.
Même si je suis trahi par ma voix, par l'âge. Bon, donc, qu'est-ce que devient la musique là-dedans ? Parce que finalement, qu'est-ce que je suis, moi ? Dans cette aventure, musicien, je me retrouve à être musicien. J'ai été au Théâtre de la Carrière pendant de 76 à 92. Et j'ai commencé comme bruitiste. On avait besoin, c'était dans le lit du Rhône. Et il fallait, pour agrémenter ce spectacle, avoir des sons, des bruits, des entrées, souligner des entrées. Et moi qui étais venu pour faire de la déco, j'ai dit, mais comme je jouais de la batterie et que je faisais du tambour, j'ai dit, mais moi je peux les faire ces trucs-là, si vous voulez, je suis sur place. Alors ça s'est rentré comme ça. Et j'ai plus quitté la carrière jusqu'à 92. Ouais, le temps passe. Donc... j'ai toujours suivi toutes les pièces de la carrière avec soit en étant décorateur, ce qui est très important aussi, on ne va pas en parler de ça encore en plus, mais pour défendre une esthétique quand même qui est occitane, où on a cherché de par les couleurs, par les costumes et tout ça, à avoir une identité aussi. Il y a le verbe. Pour vous, c'est formidable, c'est facile, vous avez le verbe. Mais nous, on a tout ce qui tout ce qui est autour, mais qui est muet, mais qui parle aussi, mais qui est muet. La déco, c'est muet. La musique, c'est pas muet, ça s'entend, mais c'est pas du verbe. Et ça, ça pose un sacré problème. Vous, vous pouvez défendre... Oui, oui, on a toujours défendu par notre musique la culture occitane. Mais comme quand on joue, on ne parle pas, si on dit, si on n'a pas un drapeau derrière, on, ça paraît naturel que ce soit comme ça. Alors bon, ça pose un sacré problème. Si on ne parle pas, si on ne se revendique pas. Oui, mais c'est universel. Mais la musique qu'on fait, nous, j'explique comment ça a démarré quand même. Sur Bougre des Carnavals, il y avait sept comédiens et musiciens. Moi, je faisais partie des trois musiciens qu'il y avait dans l'histoire. Et à travers ce spectacle de Bougre des Carnavals, qu'on a été joué absolument partout, plus de 120 ou 130 fois, jusqu'en Bretagne, où on avait les mêmes luttes, mais eux, ils ne parlaient pas la même langue. Donc là, on a appris beaucoup de choses au point de vue dans les rencontres, de se dire, mais il y a plein de carnavals qui redémarrent, parce que c'était les années où les carnavals repartaient de partout, mais on s'est aperçu qu'il n'y avait plus de musiciens pour jouer les instruments traditionnels. Ah, qu'est-ce que c'était ces instruments traditionnels en Provence, d'où on était, puisqu'on était sur Arles? C'était galoubet, tambourin, et dans le Languedoc, où on jouait beaucoup, c'était tambour et hautbois, et fifre aussi par endroit. À Pézenas, par exemple, c'est le fifre, et avec le tambour, voilà. Et donc, on s'est dit, bon, ben, comment faire? Alors, on est parti avec nos tambours, nos fifres, nos instruments, deux personnes qui jouions dans ce spectacle. Une fois que la tournée était terminée, on est retourné dans les lieux où on avait pris des contacts pour apprendre aux gens qui le voulaient à jouer leurs airs, leurs propres airs de carnaval, qui sont à peu près tous différents, avec des bases communes, comme Adi Oupar et Carnaval, par exemple. Voilà. Et pourquoi je disais ça? Oui, parce que finalement, ça aussi, c'est une manière de faire de la culture, et très, 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 très fort. Pour le pays, oui. Et en même temps, en travaillant sur la culture propre de chaque lieu, c'est extrêmement important. Mais ça paraît naturel, puisque c'est sur le lieu. ça peut être occitan, ça peut être ou pas, même si ça l'est, il suffit de le dire, et ça l'est, mais c'est, quand on le joue, on ne le sait pas. Je pose une question, ça, quand même. Bon, ensuite, quand on a eu fait ces tournées, on s'est dit, bon, maintenant qu'on a travaillé sur tous ces airs différents, il faut aller plus loin. Il faut donner un élan, une force à cette musique, comme le théâtre de la carrière le faisait par le texte. Mais pour faire ça, c'est comme vous, même si l'amateur est très important, mais en même temps, il fallait qu'on ait... on a travaillé pour être toujours plus... d'être meilleur dans notre exécution. Et donc, on a travaillé sur les répertoires très particuliers, et on s'est amélioré aussi nous-mêmes dans notre jeu, tout en cherchant un jeu inédit. Quand je dis inédit, c'est-à-dire qu'on a repris, par exemple, si on prend le galoubet et le tambourin provençal, bon, dans la rue, on a beau faire un défilé, on ne l'entend pas. D'accord, on voit des gars qui passent, qui font un petit peu quelque chose comme ça avec les doigts, mais on ne l'entend pas. Nous, comme notre lieu on était à Saint-Rémy à ce moment-là, notre lieu de répétition était à Saint-Rémy, on a dit, bon, ben, on le garde, ce galoubet et ce tambourin, mais il faut le rendre audible. Donc, on a travaillé sur le Galoubet pour qu'on l'entende beaucoup plus. On a travaillé sur sa conception. On a augmenté la perce intérieure, ce qui fait que dedans, on doit souffler beaucoup plus fort que sur un tout petit Galoubet. Mais du coup, on l'entend. Les tambourins provençaux qui sont faits avec des peaux de veau morné, donc très, 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 très douce. Ça fait bzz, bzz, bzz que tu tapes dessus. Mais sitôt qu'il y a un peu d'humidité, à partir de 8 heures du soir, ça y est, les peaux font blablabla, on n'entend plus rien. Donc on a remplacé ça par des peaux plastiques, malheureusement. Malheureusement, parce qu'il n'y a pas d'équivalent. S'il pleut, des cordes. Et nous, comme on travaillait sur les thèmes de carnaval, on joue l'hiver, par mauvais temps, et à la nuit. Donc il nous fallait des... On a changé... Les instruments pour avoir les sons qui nous étaient propres et pour qu'on puisse jouer par tous les temps et qu'on ne puisse pas nous empêcher de jouer par quoi que ce soit d'autre. Bon. Où c'est qu'on va avec tout ça?
Avec,
au pays. Oui, non, mais c'est pour dire que maintenant, on existe toujours, le groupe existe toujours. Le groupe existe toujours, il s'appelle... au début, c'était Tarabastal, Grand Brutsch. Un Grand Brutsch. On était amateur pendant 26 ans. Et après ces 26 ans où on a bien avancé quand même, on avait envie d'aller encore plus loin dans l'expression. Et c'est pour ça qu'on a travaillé avec des professionnels de la musique, pour gagner du temps. Parce que c'était sympa quand on était amateur. Ouais, on se retrouve, on répétait une fois par semaine, on buvait un coup, c'était très important. Et puis, surtout, y en a qui venaient, qui c'était le seul jour où ils répétaient de la semaine. Ça n'avance pas comme ça. Mais par contre, ça fait plaisir, c'était dans notre... c'est ce qu'on avait fait au début, on était parti sur ce principe, c'est que tout le monde pouvait jouer, tout le monde pouvait y rentrer, et à son rythme. Mais c'est un rythme très, très, très lent. On a, en 26 ans d'amateurisme, on a avancé très, très peu. Donc, après, on a décidé d'aller plus vite. Et maintenant, ça fait plus de 20 ans qu'on est professionnel et qu'on nous reconnaît comme tel. Mais, par contre, pour revenir à la culture, comme on n'a pas, je le disais tout à l'heure, c'est le problème, c'est on n'utilise pas notre parole. Les gens ne nous reconnaissent pas comme tels.
Si, si, on vous reconnaît.
Non, mais à Pézenas.
Mais non, mais...
À Pézenas, parce qu'on est...
Voilà.
Il était
là, voilà, là, c'est bon.
Je crois qu'il a peut-être eu... Non, voilà, non, simplement, c'est pas pour interrompre Christian, c'est parce que...
Si, tu peux.
En tout cas, aussi, non, moi, je voulais, là, peut-être rajouter quelque chose, c'était un hommage à Asta. Voilà, à une pensée pour Asta. Qui a été ta compagne, qui a aussi connu tout ce parcours-là et qui nous émeut encore beaucoup quand on y pense. Peut-être costumière. Voilà.
Si tu peux aussi dire que en pensant à cette... Voilà, j'ajoute qu'en pensant à cette matinée et à cet échange qu'on a eu, on a beaucoup pensé à Annette également, qui a accompagné toute cette période.
Oui, puisque malheureusement, c'est le temps où nous voyons partir des copains encore. L'autre jour, nous en avons accompagné. Hein. La résurgence, elle est là. Et bien partout ailleurs.
Si on en a encore un peu de temps, parce qu'on a
beaucoup mangé. Oui, alors, bien sûr, j'ai vu toutes les pièces de la carrière, et même certaines plusieurs fois. Et puis, j'ai relu récemment absolument toutes. Les pièces. Et alors, je me pose des questions. Déjà, il y a une chose que je voudrais dire, c'est quand même, à l'époque, vous avez réussi à travailler parce qu'il y avait les mairies communistes. Je le dis parce que quand le pays vire au brun comme actuellement, à l'époque, Arles, Martigues, Alès, Port-Saint-Louis, sans censure, parce qu'on ne vous demandait pas d'être stalinien, hein, et Claude ne se gênait pas quand il n'était pas d'accord, Claude et les autres. Hein. Mais il faut le dire dans le moment où le pays vire au brun, parce que la culture, qu'est-ce qu'elle va devenir? Voilà, et alors, donc j'ai tout relu, et moi je suis très frappée par l'écriture de Claude, parce qu'évidemment c'est Claude qui écrit avant l'écrit des femmes, hein. C'est Claude qui écrit, et tu en parles bien Catherine, ce mélange de tendresse et violence qui caractérise l'écriture de Claude, qui est absolument incroyable, qui est comme le bonhomme, hein, comme le bonhomme. Et je me suis dit, en relisant La liberté ou la mort, comment on le vivrait maintenant, cette Nanou, qui est, à la fois, il y a la valse des mailles, qui est d'une tendresse extraordinaire, qui me fait pleurer quand je l'écoute, et en même temps, elle est torturée, elle est battue, elle est violée. Est-ce que maintenant, à l'époque de MeToo, nous accepterions que la femme, même de façon scénique, ait cette présentation très ambiguë quand même? C'est... Voilà, je ne sais pas comment maintenant on revivrait. À l'époque, on adhérait parce que le SAD, c'était à la mode et compagnie.
C'était une dénonciation.
Oui, mais très ambivalente. Il y avait quand même, il y a une complaisance.
Cette réunion avec, soi-disant, le marquis de Sade.
Oui, mais il y a une complaisance dans la violence par rapport à la femme qui, quand tu relis le texte, tu l'as relis récemment ?
Il y a quelques mois, oui.
Quand tu le relis maintenant, ce texte, tu sens quand même une complaisance dans la violence. Et maintenant, ça heurte parce qu'il y a eu MeToo, il y a eu tout ce qui a été dénoncé sur la violence.
Oui, tout à fait. Donc, on écrirait différemment maintenant.
On écrirait différemment.
Je suis d'accord.
Et moi, je m'interroge comment maintenant on lirait ça.
Heureusement, différemment.
Enfin, c'est. Je ne veux pas répondre à la place de Claude. Je pourrais lui demander d'ailleurs.
Je pourrais te raconter la violence de Claude, c'était.
Non, non, je.
Oui, voilà.
Merci. L'esprit des lieux, ben justement, vous l'avez dit, hein, c'est un travail sur le temps long, contrairement à la galvanisation de ces dernières semaines là, qui occupe beaucoup de terrain. Mais d'abord, merci. Et là, à la question, est-ce qu'on peut continuer, est-ce qu'on doit continuer ? La réponse est « hoc, solide, perdeque, aibist, li vostre epeso, aibist, le travail qui faisait sa pesenas. » Et tu dis la relève, elle est là. Moi, je vois dans le sourire des minots qui assistent au fait, que ce soit Martrour, que ce soit la Saint-Jean, que ce soit le moment des clés, etc. Leur goût du pays, l'esprit del país, passe, disent à cette génération future qui devait accueillir comme les portails de l'épopée des démons. Ils n'arrivent pas là au monde, les minots d'aujourd'hui, comme des désespérés à la fin d'un cycle qui crève. Ils arrivent avec l'envie de bâtir, et vous leur donnez, vous leur transmettez ce que vous avez à dire sur le pays, sur les fêtes calendaires, sur tout ce patrimoine qui fait l'esprit du pays. Alors, la question que je me pose, ce travail sur le temps long, il y a 12 causes que vous avez dit. C'est d'abord la question de la programmation culturelle, les difficultés des reconnaissances, les difficultés per portal au théâtre, avec le festival d'Avignon à Custat, qui récamp un monde de passe d'écrire, et ça vit pas, il y a une sous l'opès en langue nostre, doc, aïla, et le programme pas mais grosse comme une annuaire, dit le in, dit le off, perqué. Perché on ne peut pas dire au monde qui programme, il y a la place à qui il calana nous cal programma. Seconde question, avez dit si Azana Djuga, partout en Bretagne, dans le monde, etc. Et ben, fédérer les pays où le théâtre populaire, les cultures émergentes dont tu parles, mais semblerait belao qui compte des travailleurs, la culture vive. Effectivement, c'est des femmes pas tout seul dans son pays, où on ne sera même prophète, malheureusement. Mais il y a des ligas les unes à les autres, et comme disait, ça m'est libre et tout, ça m'est les amazigues, ça m'est l'hip-hop amérindien, ou t'es sabi pasqué. Même si je sais que Perrine ne t'aime pas qu'on te dise que tu es comme une indienne, je t'ai entendu bramer à l'ambassade régionale, je veux pas vivre dans une réserve, as bien raison. La culture vive, donc la programmation ambitieuse, le fait d'aller dire aux gens qui trouvent qu'on est trop vulgaire, qu'on est trop burlesque, qu'on n'est pas des choses de qualité, mais... Et, le théâtre de la carrière, le théâtre des origines, le théâtre italien. C'est grâce à eux que la langue française est devenue la langue de Molière. Et il y en a un qui a dit, Jean-Baptiste Poquelin est né à Paris, Molière est né à Pézenas. Hein, donc, et quelle est justement la politique culturelle de nos régions par rapport à l'Europe, par rapport à cette fédération? Je repense aux aristophanades du théâtre, du TIO et de la rampe, avec vos questions de femmes justement, avec l'actualité. Est-ce qu'on a aujourd'hui des résidences de création théâtrale qui s'exportent en dehors de la région, en Occitan? Est-ce qu'on a des liens avec les autres théâtres en langue régionale, en langue de France, même peut-être créole, pourquoi pas aller en Martinique porter... Enfin, ils ont du carnaval là-bas aussi, enfin, ça peut créer Belao des liens internationaux. Le carnaval des Limous, qui est l'une des Mailunda au monde, et, fin finale, Ressa convide les troupes à Mélivesti traditionnel des carnavals del monde entier. Il y a une journée qui est consacrée au carnaval des mondes, per de qui passe une fesse des théâtres et d'au monde. Merci. En tout cas, bravo.
Alors, moi, voilà, je voudrais juste prendre la parole par rapport au théâtre des origines et un théâtre de femmes. Parce qu'on demande toujours aux victimes de dire voilà, je suis victime, mais on ne demande jamais aux témoins de témoigner. Alors, moi, j'ai été à la création, effectivement, en 2004 du Théâtre des Origines avec les filles jusqu'en 2010. Et oui, c'est un théâtre de femmes. Et les quelques hommes que nous étions, nous suivions cette force vive qui étaient les femmes, et en particulier Perrine, parce que c'est Perrine qui en a eu l'envie, qui en a eu l'idée. C'est Perrine qui a commencé à écrire les trames. Et nous, on lui a mené nos forces vives. Et je suis très fier d'avoir participé à ça. Et je serai encore plus fier le jour où on dira « c'est pas un théâtre de femmes, c'est un théâtre tout court ». Voilà, merci.
Merci, Peyre.
Per rispondere a Claudine, Vauana a Martinique veri mon fiei, portarai la parola che si manda. Ma di ciò che sa, è che même a chi a Martinique aime la melo creole, un dei mao si fare aussi. Donc, se passe pas gaire de cause, ma ne dirai mai après a mon retour.
Oui, un grand merci, un premier, quand il me fait un temps. Des souvenirs qui sont forts, des mailles vieilles, qui ne savent pas ce qui se passe demain. Mais il me semble qu'il y a un constat d'interaction entre l'action théâtrale et l'action des animations culturelles, car ce réanimateur socioculturel, ils en ont dans 70. Ce n'est pas une question sans que des métiers, c'est une question d'organisation. Il y a bio d'associations de fougal rural, des MJC tout à coup, qui font le rayonnement. Il y a bio la carrière, mais il y a bio d'autres troupes, quand Segui et des troupes qui repassent gaire comme le théâtre de BGL, Jean-Louis Estany, le théâtre emporté, qui repassent aux Occitanistes à la débute, et qui se mettent à l'Occitan, dit le travail théâtral. Mais à quoi est possible dans une organisation où il n'y a pas la question qui est force importante, qui est dans quel livre, ou pas l'air ou l'air, parce que c'est une question bertadière, avec bis dans les années 80, la dissociation del socioculturel ou de l'éducation populaire et du théâtre, la culture avec un grand Q.
Pardon, micro, je...
La culture avec une grand Q, qui est dans les années 70, qui s'est fait la séparation, et c'est revisible dans la politique communale. À Béziers, il y a bio une association qui s'est remontée en 73, qui est une association d'associations de la municipalité, qui n'est pas encore communiste, et de la caisse d'allocation familiale. Mais à Cofasio, une méjane d'animation, qui s'est fait à Béziers en 74, le premier mai Occitan, durant toute une messe à Béziers, c'est fait la dimension sur le thème de l'Occitan. Il y a des théâtres et c'est fait guère venir pour pas demeurer réplégate d'une autre scantou avant de faire venir une troupe de Limousine, par exemple. Et tout à coup, Fazio, une vitalité culturelle, c'est fait sur le cinéma à Benbis, le Farabic, le premier. Et a bien établi une présentation d'Alio sur les camisards. Kefager est des preuves discutées de le public qu'il y a plus l'interaction qui marchait avant. Et alors, il y a c'est une séparation, une technocratisation de l'organisation de la vie culturelle qui rôle médian pour le politique d'arrestat le rôle politique de la vie culturelle qui est cambio, qui est demanda de la démocratie et que vous n'êtes pas d'accord. Et je sais à quel biais qu'elle tourne à trapa. Et c'est important de savoir, oui, que la maille grande coalition pour faire barrage à l'extrême droite est une coalition qui est le bas de 55 confédérations syndicales en France, armée, les MJC, les GNAGEP, la mutualité française. Il y a la société civile se désréveille et le travail est à faire des mailles, armée, la société civile. Qui passe quand même aux partis politiques. Nous, partis politiques, mais qu'il y a une prise en main et une action concrète, c'est-à-dire que ces femmes des coalitions qui sont sur les enjeux écologiques, qui sont majeurs à RA, et le social, qui est de la plus grande importance, veille et perd des mains.
Oui, peut-être dans ces moments de que forcément, quels que soient même les résultats des élections tout à l'heure et plus tard, on sent qu'il y a une nécessité au niveau de tout ce mouvement qui se réclamait à une époque de l'éducation populaire, mais c'est les fédérations qui ont un petit peu trahi en oubliant un peu la façon dont ça se passait, et puis qui était plus dans la consommation et tout. Oui, ça, c'est vrai. Mais n'empêche que là, on va avoir des moments à continuer. Et là, je pense qu'il y a de la place pour beaucoup d'initiatives. Et effectivement, vous parlez de la société civile qui veut s'en mêler et qu'il va falloir qu'on maintienne cette volonté qui se manifeste bon, plutôt dans les grandes villes que dans les petites, mais qui est présente et qu'elle continue et que aussi nous y soyons au niveau notamment de tout ce qui est le théâtre, mais pas que. C'est vrai qu'on avait des façons dans les années 70, mais ça se faisait, je ne sais pas pourquoi, plus facilement avec Action Jeune Théâtre. Ça s'appelait l'AJT. Et quand l'AJT faisait une manifestation à Avignon, attention, il y avait vraiment toutes les jeunes compagnies. Ça ne veut pas dire qu'elles aient intégré l'institution, parce qu'il y avait déjà les dérives, mais elles se faisaient connaître et il y avait quand même des forces d'organisation. Et je crois que c'est ça qu'il faut redémarrer, mais on part de loin, quoi. Et il faut penser ça sur sur un temps un petit peu plus long, et en tout cas sur plusieurs années, c'est sûr. Mais moi, je pense que c'est possible, parce qu'on sent qu'il y a une détermination sur les gens qui veulent défendre des valeurs, qui veulent défendre des façons de vivre différentes, et de Fire et Païs aussi, différemment. Donc voilà, je suis d'accord avec vous, mais il n'y a pas de raison qu'on ne s'accroche pas à ça. Il y a des choses qui étaient dans le passé beaucoup plus difficiles, je pense aux résistants, parce que je pense moi à Paul Puot, et qui ont, voilà, qui quand même, après sont restés et ont marqué pendant des années et des années. Mais il faut tout reprendre d'en bas. On n'a pas le choix, de toute façon.
Mais d'en bas, on y est. Et quoi qu'il en soit du 7, qu'est-ce qu'on fait le 8? C'est ça la question pour tout le monde.
On peut terminer là-dessus?
On va faire le 8.
Oh. Pour expliquer de l'asma, je pense qu'il y avait eu une saisie d'intelligence et d'émotion qui, francamente, me toque le corps. Merci, grand merci à toute l'itresse d'avoir fait quoi.